Bon, au hockey, c'est la nouvelle du jour. Ça a commencé à circuler. Ce matin, l'entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme, a été placé en isolement préventif ce matin. Aurait échoué un test de COVID. On pensait peut-être un faux positif. On en parlait avec Philippe Quentin il y a quelques instants. Il y a des journalistes bien branchés de Toronto qui, là, disent que, en effet, c'est confirmé. L'entraîneur du Canadien qui a la COVID, semble-t-il. Il n'y a pas de confirmation du Canadien de Montréal. Et ça pose plein de questions pour le match de ce soir. Côté sportif, on va essayer d'avoir des réponses un peu plus tard. Mais côté viral, on va aller chercher des réponses avec Dr. Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue au CIUS de l'Estrie, CHUS et professeur à l'Université de Sherbrooke. Alex, salut!
Salut Patrick, une journée surréelle, une année surréelle.
C'est incroyable, hein? Je sais que tu es un grand amateur de hockey, mais tu es aussi un grand spécialiste des virus. Là, il y a des gens qui me demandent comment ça se fait que, bon, le Canadien est dans une bulle, le coach a eu ses deux vaccins. Comment ça se fait qu'il a pu contracter la COVID?
Ben ça c'est la grande question. C'est clair, bon, on le sait, les vaccins ne fonctionnent pas nécessairement à 100%. À quel moment a-t-il eu sa deuxième dose? Est-ce que c'est tout récent? Est-ce que les autres joueurs ont eu deux doses? Puis il en demeure pas moins que ce sont des gens, oui, qui sont dans des, disons, relatives bulles, mais il y a quand même des occasions de contact un peu partout, dans les hôtels, différents endroits. Donc, bon, il y a quand même encore de la circulation, si on parle, si on pense entre autres aux États-Unis, puis même ici. Donc, il y a sa vie personnelle aussi. Est-ce qu'il a été en contact avec quelqu'un dans son entourage? C'est possible aussi. On n'a pas aucun détail. Donc,
en fait,
les scénarios sont possibles.
Alex, je m'excuse de t'interrompre, mais Philippe me signale que le réseau Sportsnet rapporte que M. Ducharme a eu une deuxième dose le 9 juin.
D'accord.
Bon, ça dit quoi en termes d'immunité?
Ben honnêtement, on est très très près de l'immunité maximale. Je dirais même on y est presque. Là, théoriquement, on dit 14 jours suivant la deuxième dose, mais on était certainement, disons, à plus de 90%. On peut présumer. D'abord, on espère pour sa santé que tout va bien. On présume que oui, là, que c'est lors d'un test de routine que ça a été détecté. Donc possiblement qu'il est asymptomatique. On espère pour lui que ça demeure ainsi. Mais effectivement, bon. Il avait quand même une très, très bonne protection à ce moment-ci.
Mais il y a quand même un espace de 10 points de pourcentage là, où on peut contracter.
Oui, puis en fait, là, on parle aussi de maladies asymptomatiques, possiblement. Encore une fois, on n'a pas les détails, mais peut-être on a une protection un peu inférieure contre la maladie asymptomatique versus la maladie asymptomatique versus la maladie symptomatique.
Qu'est-ce que ça pose comme obligation pour le reste de l'équipe? Parce que Dominique Ducharme, évidemment, a partagé le même vestiaire, les mêmes espaces que les joueurs.
Oui, bien là, en fait, à partir du moment... Bon, il y a aussi le fait quand même que les joueurs sont testés régulièrement. Donc, ça, au moins, ça nous donne une bonne idée du moment où il peut devenir contagieux. Évidemment, il y a possiblement des joueurs qui vont... Bon, les joueurs poursuivent leur dépistage. Il y a clairement eu des contacts étroits dans ce contexte-là. On sait que, bon, les entraîneurs doivent porter le masque, mais ça me fait un peu de mal de dire ça, mais M. Ducharme n'était peut-être pas le champion du port du masque. Ouais. Là, on le voyait souvent dans les matchs, c'était souvent rapporté.
Les photos ont commencé à circuler, Alex, sur Twitter, où on le voit là, tirant son masque pour se faire entendre.
Ben on le voyait fréquemment. Je peux comprendre, dans un amphithéâtre bondé, c'est pas facile de se faire entendre aussi, mais quand même, disons, c'était pas toujours, disons, respecté comme ça devait l'être. Et ben on espère évidemment qu'il n'y aura pas de contagion sur les autres joueurs. Ça, évidemment, ça pourrait devenir catastrophique. Là. C'est quand même très improbable qu'on se retrouve dans une situation comme on l'a vu avec les Canucks de Vancouver plus tôt cette année, avec vraiment une grande éclosion. Si tous les joueurs ont été vaccinés à deux doses, dans ce contexte-là, ça minimise beaucoup les risques d'une éclosion, mais on n'est vraiment pas à l'abri qu'un autre joueur test positif, puis le protocole est quand même très, très strict. Puis évidemment, dès qu'un joueur teste positif et que c'est confirmé, il doit être exclu, un peu comme M. Ducharme, s'il est réellement positif, va être exclu probablement pour une durée d'au moins 10 jours suite à son test positif.
OK, Alex, je t'entraîne sur un autre terrain. OK, pour le sport, ben, il y aura des réponses un peu plus tard. Là on voit qu'aux États-Unis, il y a des théâtres, il y a des organismes qui disent, bon, écoutez, on exige une preuve vaccinale. Si vous avez eu le AstraZeneca, comme beaucoup de Canadiens, ben, vous n'êtes pas admis, par exemple, dans les spectacles de Bruce Springsteen. Est-ce que scientifiquement, c'est fondé, ça?
Bien, on sait que le vaccin AstraZeneca, il y a une protection contre la maladie qui est un peu inférieure au vaccin ARN comme Pfizer, Moderna. Par contre, ce qui est quand même particulier dans le cas des États-Unis, c'est qu'on acceptait dans ce concert-là les gens vaccinés avec Johnson & Johnson, qui a vraiment une efficacité qui est très, très similaire, qui est un vaccin similaire à l'AstraZeneca, qui se donne une dose, mais on les accepte. Donc, c'est parce que l'AstraZeneca n'est pas utilisé aux États-Unis. Mais là, il y a vraiment un travail d'harmonisation à faire entre les pays. Là, on parle d'un exemple plus banal, là, qui peut être quand même très... disons, pour les gens qui ont été refusés, c'est très dommage, mais lorsqu'on parle d'entrée au pays, là, il y a plusieurs calendriers vaccinaux. Mm-hmm. Il y a des pays, bon, des calendriers mixtes. On parle là, de ce qu'on va utiliser ici, bon, une dose d'AstraZeneca suivie de Moderna. Il y a quand même des gros joueurs à l'international, là, comme la France, les États-Unis, l'Espagne, qui utilisent des calendriers similaires, mais c'est pas partout. Donc là, il va falloir que les pays s'entendent sur ce qui est accepté d'un pays à l'autre, ce qui est accepté universellement. Ça, il y a encore beaucoup de travail à faire, puis je comprends que pour les gens, ça peut générer de l'anxiété, là.
OK, disons que je suis un très grand fan de Springsteen. Je veux vraiment aller le voir. J'ai été vacciné à AstraZeneca. Est-ce que il y a une contre-indication à recevoir un autre type de vaccin comme le Pfizer par-dessus?
Actuellement, on n'a pas de données à ce niveau-là. Il n'y a pas, honnêtement, je pense que le risque est faible. Il n'y a pas de contre-indication, j'en douterais très fort. Évidemment, peut-être qu'il y aurait davantage d'effets secondaires lorsqu'on se retrouve face à une troisième dose, mais bon, c'est quand même un scénario, vous faites bien en parler, parce que je pense que les troisièmes doses, dans certains contextes, pas pour des doses de rappel, mais vraiment pour compléter. Par exemple, justement, les gens qui reçoivent deux doses d'AstraZeneca, est-ce qu'éventuellement on pourrait voir, comme on dit que l'efficacité est peut-être un peu plus faible, est-ce qu'on pourrait voir l'apparition d'une troisième dose pour vraiment optimiser la réponse chez ces gens-là? C'est pas impossible. Actuellement, malheureusement, on n'a pas ce type de données-là, mais je m'attends à voir ça émerger d'ici quelques mois tout au plus, là.
Merci beaucoup, Alex. Bonne fin de semaine, puis on se croise les doigts pour le match ce soir.
Certainement. Bon week-end à tout le monde.